Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accord Diac, voir fr.renew.auto. Pensez à covoiturer.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Estelle Midi, comme tous les jours, midi 15h sur RMC et sur RMC Story, le canal 23 de la TNT. Nous sommes en direct du stand de la région Hauts-de-France depuis le salon d'agriculture à Paris. T'as vu comme je dis bien Fred Hermel qui est de la région Hauts-de-France.
C'est comme Danny Boone dans son sketch, il dit Hauts-de-France.
Ah bah oui, Hauts-de-France. Estelle n'est pas là aujourd'hui, mais elle sera de retour avec nous dès lundi prochain. Il y a pas mal de monde autour de nous. Si vous pouvez vous faire entendre, qu'on vous entende un peu.
Allez les copains RMC. Et les copines.
Voilà. Autour de moi aujourd'hui, il y a Alfred Orange, journaliste RMC, Frédéric Hermel, vous venez de l'entendre, journaliste RMC, Thierry Moreau, journaliste média, et puis Laurent Dandrieux, rédacteur en chef culture à Valeurs Actuelles. Dans un instant, on va parler de cette proposition de loi, une peine minimale d'un an de prison pour les récidivistes qui s'en prennent violemment à des policiers, des gendarmes ou encore à des élus. Vous êtes pour, vous êtes contre, vous nous appelez au 32-16 à 13h30, le meilleur du jour sur RMC, ce sera notre zapping. À 14h, viande d'autruche ou encore lait de chamelle. Mais attention, hein, Made in France, produit chez nous, le lait de chamel, notamment dans le Nord, dans les Hauts-de-France en tout cas, on en parlera avec l'un des producteurs. Est-ce que vous êtes prêts à manger autrement? À 14h40, les immanquables d'Alfred Orange, et puis on joue Alfred aujourd'hui.
Oui, on vous couvre de cadeaux, même pour vous remercier d'être venu nous voir et de votre fidélité à RMC. On vous offre un panier garni de produits régionaux offerts par Saveur en Or et Terroir Hauts-de-France. Avec la région Hauts-de-France, il y a du poulet au maroilles, du pâté, de la limonade. Et si vous n'avez pas la chance d'être là, eh ben on s'occupe aussi de vous. On va vous inviter au Salon de l'Agriculture. On vous offre deux entrées pour venir découvrir cette 59e édition et surtout ce très beau stand de la région Hauts-de-France nommé Région Européenne de la Gastronomie, voilà. 2023.
Voilà.
RMC Estelle Midi.
C'est la proposition du jour, proposition de loi déposée par le groupe Horizon à l'Assemblée. Le groupe Horizon, c'est le groupe de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Imposer une peine minimale d'un an de prison pour les récidivistes, ceux qui s'en prendraient violemment à des agents publics. Alfred, qui est exactement visé?
Eh bien, déjà, l'idée c'est de protéger des délits avec violence. Concrètement, d'après cette proposition, si vous êtes récidiviste et que vous agressez à nouveau un policier, un pompier, un élu, un infirmier, ce sont ces corps de métier qui sont concernés, vous écoperez d'un an d'emprisonnement au minimum. Tous les agents publics seraient protégés par cette mesure. Si les 29 députés Horizon se penchent sur la question, c'est que d'après eux, les récidives progressent contre ces agents de l'État. L'idée de ces peines planchers et surtout aussi de dissuader, mais le texte, il faut le dire, a peu de chances d'aboutir. Ils ne sont pas soutenus par leurs alliés de Renaissance. Le ministre de la Justice lui-même, Éric Dupond-Moretti, est un fervent opposant à ce dispositif porté en son temps par Nicolas Sarkozy. Ce texte expose...
Les fameuses peines planchers.
Absolument, mise en place en 2007 et supprimée en 2014. Ce texte, en fait, il expose surtout les failles qui existent sur la question sécuritaire dans la majorité. Un député macroniste résume même, chez Horizon, ils ont surtout envie de nous faire chier.
Au moins c'est clair. Une peine minimale d'un an de prison pour les récidivistes qui s'en prennent à des policiers, des gendarmes, des pompiers, des élus, des infirmiers. Pour ou contre, vous nous appelez au 32-16. Thierry Moreau.
Alors, qu'on soit très clair, il faut être impitoyable avec ceux qui effectivement s'en prennent à des agents publics.
Pour ou contre, Thierry Moreau?
Je suis contre pour deux raisons. D'abord, un an, ça ne sert à rien, parce que je vous rappelle qu'un an de peine de prison, c'est aujourd'hui aménageable. Donc les gens qui sont aujourd'hui condamnés à un an de prison ne font jamais un jour de prison. Premier point. Deuxième point, notre droit est basé sur l'individualisation de la sanction et de la peine. Donc il faut à chaque fois prendre en compte de qui on parle, ce qu'il a fait exactement, dans quelles conditions. Donc l'individualisation de notre droit et des sanctions qui vont avec me paraît très important. Moi, j'ai assisté, par exemple... Alors après, je pense qu'il faut être plus dur sur les récidivistes, ça c'est clair. J'ai assisté à un procès correctionnel de gens qui n'avaient pas le permis. Des gens qui, plusieurs fois, ont été condamnés parce qu'ils n'avaient pas le permis. Ils se sont tirés avec quelques centaines d'euros d'amende. Moi, je serais beaucoup plus rude avec quelqu'un qui roule par exemple, en récidive, sans permis. Et Dieu sait si l'actualité actuelle peut me donner raison. La dernière chose, c'est qu'il faut toujours se méfier des automatismes, des pleines planchers, etc. Je vous rappelle que il ne faudrait pas qu'on ait une dérive à l'américaine. Je vous rappelle que là-bas, il y a une loi qui s'appelle la loi des trois prises et du retrait. Ça veut dire que vous êtes condamné à deux fois pour des délits et des crimes. La troisième fois, vous prenez perpète. Ça arrive, c'est le cas dans 50 États américains. 50 États américains. Et encore, l'Arizona, en 2006, a adopté ce texte. Ce qui veut dire, par exemple, qu'on a eu en 95 en Californie quelqu'un qui avait volé, qui avait trafiqué un peu de cocaïne et qui, pour le vol d'une pizza, a pris 25 ans de prison incompressible. Donc, il faut faire très attention à ces formules qui peuvent être un peu populistes, qui sont difficiles à transcrire dans le droit. Alors, encore une fois, je le répète, il faut être sévère avec les récidivistes. Hein. Je ne suis pas laxiste. Je dis simplement qu'il ne faut pas faire n'importe quoi.
Laurent Dandrieux.
Alors moi, je suis tout à fait pour cette mesure. Je pense que c'est le minimum, d'ailleurs. Je serais pour qu'on l'applique non seulement aux délits qui ont été énoncés, mais à tous les délits graves. D'ailleurs, il y a des peines plafond, donc je vois pas pourquoi il y aurait pas des peines planchers. En fait, moi, ça me choque pas du tout. Quand tu dis que il y a un principe d'individualisation de la peine, c'est vrai, mais en l'occurrence, il est maintenu, comme il était maintenu d'ailleurs dans la loi qui avait été votée sous Sarkozy, c'est-à-dire que le juge pouvait garder la liberté de donner des peines inférieures aux peines minimales en question, à condition qu'il le motive. Donc la liberté de jugement et l'individualisation des peines.
Dans l'autre sens aussi, parce que c'est un an de prison, peine minimale, c'est-à-dire que quelqu'un qui est en récidive et qui s'en prend à un pompier, par exemple, pourrait prendre un an et demi, deux ans, trois ans.
Et par ailleurs, là où je suis d'accord avec Thierry, c'est que ça n'a effectivement aucun sens si on reste dans le système actuel où les peines prononcées ne sont jamais exécutées avec la force et la durée qui a été prononcée. Donc c'est très joli. Moi, je suis tout à fait pour une peine minimale, mais à condition effectivement qu'on en finisse avec ce système où les jugements prononcés deviennent finalement des jugements en partie symbolique, parce qu'on sait que
on est un des rares pays où on n'exécute pas les courtes peines. Ouais. C'est ça qui est fou.
Oui, et puis par ailleurs, il y a aussi des réductions de peines, des aménagements de peines, à mon avis, en beaucoup trop grand nombre, qui alimentent ce sentiment d'impunité qui, malheureusement, contribue à l'ensauvagement de ce pays.
Frédéric Hermel.
Les opposants à cette mesure parlent notamment de surpopulation carcérale. Pour continuer la discussion de mes camarades.
Elle est réelle.
Et voilà, en disant, il faut faire exécuter les peines, mais il faut qu'il y ait de la place. Donc on va déjà commencer par construire des prisons, et après on en parlera. Là, je pense qu'on est dans le symbole. On est dans le symbole, et on est dans la dénonciation de part des députés d'Horizon du laxisme judiciaire qu'il y a en France.
T'es pour ou contre cette...
Moi, je suis pour. Mais si on me dit, alors j'écoute mon ami Thierry qui dit, oui, mais le problème, c'est que ce sont des peines aménageables, etc. On n'a qu'à mettre comme plancher des peines qui ne soient pas aménageables, justement. Des peines qui impliquent de la prison ferme, quoi. Et ce qui est terrible, c'est que j'écoutais Alfred qui nous expliquait les dissonances au sein de la majorité. Mais le en même temps, ça ne marche pas pour plein de sujets. Et s'il y a bien un sujet dans lequel le en même temps ne peut pas marcher, c'est la justice. Quand on veut être ferme, il ne peut pas y avoir deux en même temps. Et là, on voit le grand écart qui est fait entre les gens d'Horizon, qui sont plutôt les gens de la droite, et d'autres personnes au sein de la Macronie, qui sont des anciens socialistes. Et c'est la raison pour laquelle cette majorité, elle est tellement difficile à fonctionner, en fait. Et c'est pour la raison pour laquelle, et je le dis quasiment toutes les semaines, après Macron, il n'y aura plus de macronisme. Donc chacun va retourner dans sa famille.
Même sous Macron, il n'y a pas de macronisme.
Oui. Non, mais tu vois ce que je veux dire.
Et la majorité n'est pas laxiste. Hein. Les peines n'ont jamais été aussi importantes et il n'y a jamais eu
de condamnation.
Après, tu as employé le mot prison ferme. C'est quand même hallucinant de penser qu'effectivement, aujourd'hui, tu peux être condamné à la prison ferme
et pas y aller.
Faire un jour de prison.
Ça, on est d'accord.
Une peine minimale d'un an de prison pour les récidivistes qui s'en prennent à des policiers, gendarmes, pompiers ou encore à des élus. Pour ou contre, vous nous appelez au 3216 et on rejoint Sylvain. Bonjour Sylvain.
Bonjour à tous. Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Sylvain, vous nous appelez depuis le Mans, c'est ça, le département de la Sarthe.
Voilà, c'est ça, c'est bien ça.
Vous avez quel âge, Sylvain?
J'ai 34 ans.
Et vous faites quoi dans la vie?
Alors, je suis directeur d'entreprise et je fais partie justement du groupe aussi Horizon.
Très bien, vous êtes
d'accord. Le 9 octobre au Havre.
Sympathisant Horizon et même adhérent au parti. Je vous pose la question quand même. Est-ce que vous êtes pour ou contre cette proposition de loi déposée par le groupe Horizon?
Alors oui, je suis entièrement pour cette proposition de loi qui, je pense, pour moi, est juste. Alors c'est un texte global, c'est un dispositif minimal, c'est aussi un dispositif équilibré. Et contrairement à ce que pour entendre, c'est pas une peine plancher. Voilà, c'est pour ça que je dis c'est un dispositif minimal. Aussi, il y a aussi dans une question aussi après pour la réinsertion. Et aujourd'hui, on peut pas laisser des personnes faire des récidives comme ça sans qu'ils soient minimum sanctionnés. C'est-à-dire que
en quoi c'est pas une peine plancher ? Expliquez-nous.
Parce qu'on sait très bien que les peines planchées avec M. Sarkozy, moi, ça n'avait pas. Oui, j'étais favorable. Hein, ça n'a pas fonctionné. Là, c'est vraiment un dispositif minimal. Et derrière aussi, qui aussi peut après amener aussi à
une. Il y a que le nom qui change.
À part le fait que Sarkozy soit devenu un gros mot, en quoi ça se distingue concrètement?
Ah bah, alors après ça, je sais pas, j'ai pas la réponse là aujourd'hui à qu'est-ce qui la différencie. Je sais juste que je vois quand j'ai les notes d'horizon ou autre, on est plus après dans un accompagnement aussi pour voilà faire une réinsertion parce qu'on sait qu'en 2021 il y a une personne sur deux qui était déjà condamnée refaisait après une récidiviste donc voilà moi je suis pour parce qu'aujourd'hui on s'attaque aux élus l'autorité elle est complètement partie. On s'attaque aux élus, on s'attaque aux policiers, on s'attaque aux pompiers, on s'attaque aux profs, aux chauffeurs de bus. Enfin, on s'attaque à tout le monde. Et les gens aujourd'hui n'ont plus, la plupart, je dirais pas tout le monde, mais les récidivistes n'ont plus peur. C'est-à-dire, ils n'ont plus peur de la justice.
La notion de la gravité et du symbole que c'est de s'attaquer à un uniforme.
Ou même un élu, un pompier, un prof, ou après à des personnes comme un citoyen. Aujourd'hui, les gens n'ont plus peur. Donc, je pense que ce dispositif est quelque chose de bon. C'est-à-dire qu'on leur dit, maintenant, attention, vous faites une connerie, entre guillemets, c'est un carton jaune, vous en faites un deuxième, carton rouge. Et au moins...
Merci, Sylvain. On a compris votre position. Merci, Sylvain, d'avoir été avec nous au 32-16 depuis Le Mans. Béatrice Brugère nous rejoint dans Estelle Midi. Bonjour, Béatrice.
Bonjour, vous m'entendez ?
Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire générale du syndicat Unité Magistrat FO. Béatrice, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'entendre ce que nous disait à l'instant Sylvain, qui nous appelait au 32-16. Il nous disait, aujourd'hui, on ne respecte plus les fonctions, les uniformes. Alors, un an de prison pour les récidivistes qui s'en prennent à ces agents publics, est-ce que c'est bien ? C'est une bonne idée ?
Bon, écoutez, alors, d'abord, merci de votre invitation. J'ai entendu ce que vient de dire votre invité, notamment sur la différence entre peine plancher et peine minimale. Si vous voulez, je reviendrai là-dessus pour vous donner la différence, parce qu'il me semble qu'il y a une confusion qui est entretenue et qui est importante de clarifier. Alors moi, ce que je voulais simplement vous dire, c'est que au-delà des enjeux et des jeux aussi politiciens, il faut quand même remettre cette proposition de loi dans un contexte très particulier si on veut la comprendre et éventuellement l'apprécier dans, j'allais dire, sa capacité à lutter contre la récidive. Il y a une singularité française dont on ne se rend pas obligatoirement compte aujourd'hui, qui est cette augmentation de la violence sur des personnes qui sont là pour nous protéger ou qui sont là pour servir le collectif, c'est-à-dire tous les agents publics. C'est une singularité française. Donc il va falloir s'interroger là-dessus. Pourquoi il y a une augmentation pareille de ces violences? Et en plus, c'est un sujet qui est revenu de façon récurrente, sur lequel manifestement on est en échec, puisqu'on n'arrive pas à enrayer cette violence. Deuxièmement, on s'attaque à un profil de récidiviste, c'est-à-dire des gens qui ont déjà connu la justice et qui ont déjà eu un avertissement, qui montre aussi un deuxième échec. C'est-à-dire qu'ils sont déjà passés chez nous et ils n'ont pas compris. Donc ça veut dire que la réponse qu'on a donnée n'est pas la bonne réponse, ou en tout cas, elle n'a pas permis de prévenir, de réinsérer, ou en tout cas de faire peur. Donc c'est dans ce contexte-là que d'ailleurs un des syndicats, Unité SGP FO Police, a aussi milité pour qu'on puisse avoir une réaction appropriée, que ce projet de loi est arrivé. Maintenant, dans le débat politicien qui malheureusement parfois brouille les cartes, on a tendance à dire oui, mais les peines planchers, on a déjà essayé et ça marche pas. Alors d'abord, c'est faux. Personne ne sait si ça a vraiment marché parce que personne ne lit les résultats. Et c'est faux parce que en fait, ça a plutôt bien marché, contrairement à ce qu'on dit sur les délits. Il y a maintenant des analyses qui démontrent que non, ça a plutôt bien marché, même s'il y a eu des résultats.
C'est un réel effet dissuasif.
Exactement. Alors, pas pour les crimes, mais pour les délits. On a maintenant des études qui montrent que ça a marché, premièrement. Donc, c'est faux de dire ça, et c'est répété à longueur d'antenne, donc je le dis. Ensuite, la différence entre les peines planchées et les peines minimales, qui sont ce qui est visé dans ce projet de loi, ce n'est pas la même chose. La peine planchée, si vous voulez, c'est un peu une peine forfaitaire. Vous êtes en récidive légale, on vous a déjà donné un avertissement, et vous savez que si vous revenez sur le même délit, ou le même crime, vous aurez automatiquement, quasiment, une peine qui est déjà forfaitisée.
C'est le caractère automatique, ouais.
Ouais, mais le juge peut toujours l'écarter, sinon le Conseil constitutionnel nous sanctionne. Il y a toujours la possibilité de l'écarter au nom du principe de l'individualisation. Mais vous savez que, par exemple, vous avez fait tel délit, c'est 4 ans, si vous revenez en récidive, ou 5 ans, etc. Donc c'est forfaitisé. Le projet de loi, c'est pas ça. C'est de dire, on veut un minimum de peine si vous êtes en récidive. Ça veut dire que vous avez la possibilité, vous, quand vous êtes juge, d'aller bien plus haut. C'est juste le minimum du départ. Donc vous comprenez, c'est pas du tout la même chose. Et là, ça existe déjà d'ailleurs pour les crimes, hein, il faut savoir, donc c'est pas nouveau. Mais il faut pas se tromper de débat. Quand on dit, on a essayé, ça marche pas, c'est pas vrai. C'est une autre logique. Après, on est sur une première marche. En réalité, on a un problème beaucoup plus global, qui est le problème de la justice et de son exécution. Parce que vous pouvez prévoir toutes les peines que vous voulez, en réalité, si elles ne sont pas exécutées réellement, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc si vous voulez, cette proposition de loi, elle est intéressante si elle est remise dans un contexte global à la fois de criminologie, c'est-à-dire pourquoi on a une augmentation de la violence et pourquoi on est en échec, et si elle est remise aussi avec une politique pénale, qui est celle du garde des Sceaux, qui va demander par exemple systématiquement, en cas de récidive, un mandat de dépôt. Si vous n'avez pas ça, il faut savoir qu'aujourd'hui, les derniers textes proposent un aménagement jusqu'à un an. Or, c'est ce qui est prévu dans ce texte. Un an, c'est très peu. Et ces peines sont quasiment toutes aménagées jusqu'à un an. Mais si vous êtes en récidive,
c'est ce que disait Thierry Moreau.
Voilà. Si vous êtes en récidive, vous avez un mandat de dépôt qui est de plein droit. Faut-il encore le prononcer ? Parce que le juge peut l'écarter. Parce que le juge peut toujours tout écarter. Donc derrière, si vous voulez, il faut toute une politique pénale qui relie l'exécution des peines, qui fait en sorte que cette exécution, c'est-à-dire le prononcé des peines, se fasse vraiment. Et ce qui veut dire derrière aussi toute une réflexion sur notre rapport à l'incarcération. On est très ambivalent dans la société. À la fois, on nous dit, oui, les juges, vous êtes toujours laxistes. Et après, on vous dit, oui, mais les juges, vous êtes trop répressifs. Donc, à un moment, il va falloir choisir. Et tous ces débats-là sont très importants.
Il faut une volonté politique, en fait, en quelque sorte.
En fait, il faut une politique pénale globale. C'est-à-dire qu'une loi toute seule, ça, c'est une petite marche.
Ah oui, parce que c'est bien beau, Béatrice, c'est bien beau, effectivement, de dire, bien beau, c'est une expression, mais de dire, en état de récidive, quelqu'un qui a frappé deux fois un policier, allez hop, un an de prison, encore faut-il que ce soit exécuté. Si c'est exécuté, si la personne va réellement en prison, encore faut-il que la prison soit adaptée à sa situation. C'est-à-dire qu'on parle parfois d'école du crime, de la prison. Si cette personne ressort encore plus aguerrie, en tout cas en plus haineuse ou violente qu'elle ne l'était à l'entrée, enfin, c'est une réflexion globale.
Sur la construction de places de prison, parce qu'aujourd'hui, le juge, si vous voulez, est confronté à deux choses. Un, une politique pénale qui lui demande de ne pas mettre à exécution. Il faut quand même que tout le monde l'entende. La prison doit être l'exception et tout est fait pour aller dans ce sens. Et deuxièmement, il faut qu'il y ait des places en prison parce que sinon, le juge, aujourd'hui, se trouve également en difficulté. Donc, c'est bien d'avoir une proposition de loi, c'est mieux d'avoir une vraie politique pénale d'ensemble, à la fois qui prenne en compte la réalité criminelle et qui prennent en compte aussi tout notre système qui est en grande partie défaillant. Donc oui, pourquoi pas, je ne sais pas si ça fera du bien, mais en tout cas, ça ne fera pas du mal. Mais après, la vraie question, c'est ne faisons pas des faux débats, plein de planchers, tout ça, ce n'est pas le sujet en réalité. Mais le vrai sujet, c'est pourquoi en France, on est si mauvais pour enrayer la récidive. Et n'oublions pas aussi qu'en récidive, un délinquant en violence sur les forces de l'ordre encourt, si je ne me trompe pas, mais plus de 7 ans. Donc un an,
il y a un caractère de gravité supplémentaire. Merci Béatrice Brugère d'avoir été avec nous, secrétaire générale du syndicat Unité Magistrat FO. On vous pose cette question, une peine minimale d'un an de prison pour les récidivistes qui s'en prennent à des policiers, à des pompiers, des gendarmes ou des élus. Pour ou contre, vous nous appelez au 32-16, est-ce que ce qu'a fait Sandrine qui est avec nous. Bonjour Sandrine.
Bonjour.
Merci Bonjour. De nous rejoindre dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Sandrine, on me dit que vous nous appelez du Nord. Vous êtes où dans le Nord ?
À Avesnes-sur-Helpe, à côté de Maubeuge.
Avesnes-sur-Helpe, très bien, on n'est pas loin de la Belgique.
On a le bleu des yeux.
Oui, exactement. Voilà. Et nous, avec Fred Hermel, on est de là-bas et on est depuis le stand des Hauts-de-France, hein, au salon de l'agriculture.
Oui, on vous voit en même. Je vous regarde tous les jours.
Formidable. Merci, Sandrine. C'est gentil. Sandrine, pour ou contre cette peine minimale d'un an de prison
contre. Parce que moi, je trouve ça aberrant qu'en France, c'est bien beau de dire à la personne je vous mets en prison. Les personnes ont des. Moi, je dis au cas par cas, ils ont des problèmes pathologiques. Des problèmes psychologiques qui ne sont pas traités ou d'addiction qui ne sont pas traités en amont. On les met dans une prison où ils côtoient des gens encore plus fous qu'eux et ils ont encore accès aux stupéfiants, à tout ce qu'ils peuvent avoir. Donc, moi, je dis non. Si vous voulez que ça soit soigné en amont, à quoi ça sert de les mettre en prison ?
Mais ce qu'elle décrit, Sandrine, quand même, c'est très vrai. Hein.
Là,
c'est,
oui, mais c'est, sauf on que dans, connaît, le, dans, le terrain, dans cette pardon, proposition de loi, il est dit que le juge peut ne pas appliquer cette peine minimum s'il estime qu'il y a des circonstances particulières et donc il a la liberté de motiver sa décision pour donner une peine inférieure. Donc cette liberté de ne pas mettre les gens en prison si on estime que ça n'est pas la chose appropriée, elle demeure.
Sandrine.
Oui. Et c'est pas du tout ce que j'ai dit. Moi, j'ai dit que c'est l'histoire de les mettre en prison.
Oui, mais elle a raison. C'est ce que disait à l'instant Béatrice Brugère. C'est bien beau de dire à quelqu'un, ça fait deux fois que vous agressez un gendarme. Maintenant, c'est terminé. Vous n'avez pas compris la première fois. On vous a averti, on vous a expliqué pourquoi c'était grave et quel était le caractère de gravité que de frapper un gendarme. Maintenant, c'est un an de prison. Tu sais très bien, Laurent, comment fonctionne aujourd'hui la prison. C'est mettre quelqu'un milieu. Attends, c'est être quelqu'un qui va se retrouver dans un milieu extrêmement violent.
C'est la récidive.
C'est le principe même de punition que tu
Non, il faut simplement
Je veux que les gens soient punis, mais qu'ils soient incarcérés dans des conditions qui fassent que quand ils sortent, ils aient compris. Et qu'il soit moins violent.
Je suis désolé, il faut que
ça fonctionne d'un bout à l'autre dans la chaîne. Encore une fois, il y a des pays du nord de l'Europe. Vous insultez un policier, vous dépassez la limitation de voiture. Eh bien, vous faites 8 jours de prison. Mais vous les faites vraiment. Et vous les faites dans des cadres où ce sont des prisons qui sont acceptables. On a un problème de l'état de nos prisons qui est lamentable. Où effectivement, si on envoie quelqu'un en prison. Et il y a beaucoup de gens qui ne devraient pas y être parce qu'ils ont des troubles psychiatriques, c'est un autre sujet, mais où qui ferait mieux d'être
soigné. On les met là parce qu'on n'a pas de place pour les mettre ailleurs.
Exactement. Donc c'est un problème global. Un problème global.
Oui, mais là, on parle de récidivistes. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont déjà été avertis en disant ils ont déjà fait une connerie, ils ont déjà été condamnés, ils n'ont pas fait de prison. Oui. On leur a bien
fait. Mais qui prennent plus sur des récidives,
on leur a bien. Je termine. On leur a bien expliqué que la prochaine fois, il y avait vraiment un risque de prison. Ils sont pas pris au dépourvu, quoi. Donc, et puis l'excuse psychologique, la grande majorité des délinquants en France qui pourrissent la vie des gens pour des délits quotidiens, mineurs, moyens ou majeurs.
Non, mais on est d'accord.
Non, pas tous des problèmes psychologiques.
On est d'accord qu'il y a un problème avec les prisons, mais s'il faut attendre que toutes les conditions idéales soient remplies pour punir,
c'est vrai aussi.
Il y a un problème.
Merci à Sandrine de nous avoir appelé au 3216. Elle nous a appelé depuis Avesnes-sur-Helpe, dans le beau département du Nord. Tout de suite.
C'est marrant comme on parle moins de la Bretagne en ce moment.
C'est incroyable. Le Nord, c'est très bien. C'est presque aussi bien que le Pas-de-Calais.
Oui. Ça, c'est ton avis, on va pas commencer à se fâcher entre nous. Allez, tout de suite, on va se diriger vers Alfred qui va nous donner le résultat de la consultation. Vous posez cette question, une peine minimale d'un an de prison pour les récidivistes qui s'en prennent à des agents publics, pour ou contre ?
Plébiscite, oui à 88%, non à 12%, avec un message de Mélanie qui dit pourquoi qu'aux policiers et aux représentants de la République, il faudrait aussi l'appliquer aux personnes âgées et aux handicapés.
Oui, c'est à ceux qui s'en prennent aux personnes
âgées. Absolument, il a fait la récidive.
Merci.
Pas qu'aux agents de l'État. Voilà.
Merci Alfred, allez dans un instant, c'est le zapping
de Kiki.
Qu'est-ce que c'est ?
Alors là,
que vient faire au stand des Hauts-de-France, Jean Essayé,
vous avez à présent 5 minutes pour participer au 7-32-16 par SMS en envoyant foot pour gagner une soirée exceptionnelle à Munich. 2 places pour aller voir le PSG avec toute l'équipe de l'After, rencontrer Jeannot Essayé. Vous avez 5 minutes pour jouer au 7-32-16 par SMS en envoyant foot.
Allez, dans un instant, le zapping, c'est le meilleur du jour sur RMC. C'est Estelle Midi sur RMC et RMC Story. À tout de suite.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Rémi Barré.
Estelle Midi, comme tous les jours, midi 15h sur RMC, RMC Story. Nous sommes en direct du stand de la région Hauts-de-France au Salon de l'Agriculture à Paris. Dans un instant, on va faire notre zapping, mais avant cela, il y a Louise qui est à côté de moi. Bonjour Louise.
Bonjour.
Ravi de vous rencontrer. Louise qui nous vient de la ferme du Prémolène. On est à côté d'Arras, c'est ça?
C'est ça.
Où ça exactement?
Alors à Blas-Saint-Lazare, Arras.
Est-ce qu'on entend bien Louise?
Non, je n'entends pas.
Notre-Dame-de-Lorette. Rapprochez-vous de moi. Vous allez parler dans mon micro, ça va bien se passer.
Alors, à Blas-Saint-Nazaire, c'est situé entre Arras et Lens, Notre-Dame-de-Lorette, on va dire.
Très bien. Et qu'est-ce que vous venez nous présenter, Louise?
Alors, je suis venue...
Ça marche toujours pas.
Si, c'est bon.
Je suis venue vous présenter les produits de plusieurs agriculteurs, pas que les miens. Moi, je suis éleveuse de porc, donc je vous ai ramené du saucisson, du lonzo au curry, de la copa, des rillettes de porc. Oh. Mais après, en fait, sur le salon de l'agriculture, on est venu avec le réseau Bienvenue à la ferme. Et donc, ce réseau, on est un collectif, là, aujourd'hui, de 7 agriculteurs où on fait plein de choses des Hauts-de-France. Donc, vous avez du fromage de chèvre, de la tomme de chèvre au safran, du saucisson sec pur bœuf. On a aussi de la bière aussi, qui est de notre côté.
Évidemment, avec modération, mais bon. On viendra la goûter tout à l'heure, une fois l'émission finie. On va attendre que l'émission soit finie.
Mais le saucisson pur bœuf, il est excellent.
Oui, t'as goûté quoi, toi?
J'ai goûté le saucisson pur bœuf et le pâté.
Et la copa est délicieuse.
La rillette de porc.
La copa est délicieuse. Goûté la copa. Fred, t'as goûté quoi?
La rillette de porc, là. J'adore.
Et pourquoi Thierry Moreau, il a pu goûter deux choses? Parce que nous avait dit un par personne.
On verra après.
Parce que je suis un gourmand.
T'as goûté quoi, toi, Fred?
La copa. Délicieuse.
Merci.
Et vous me disiez tout à l'heure, vous avez pas mal de contacts sur le salon, vous venez pour vendre, c'est normal, voilà. Mais ce sont pour vous faire du contact et vous sentez qu'il y a une vraie envie du retour aux produits de la ferme.
Ouais, en fait, on ressent que les gens sont contents de retrouver un agriculteur derrière le produit. Ils sont contents de discuter avec un agriculteur, de savoir comment ça se passe dans nos fermes, comment on fait notre.
On a besoin de vrai.
Voilà, c'est ça, du vrai, d'authentique et du fermier.
Et du personnel.
Merci beaucoup, Louise, de la ferme du Prémolène. On est à Ablain, Saint-Nazaire, c'est juste à côté d'Arras. Et le réseau, c'est Bienvenue à la ferme. On peut retrouver les produits où?
Alors, Bienvenue à la ferme, en fait, c'est un réseau national. Moi, mes produits, on les retrouve à la ferme et souvent dans des points de vente. Bienvenue à la ferme.
D'accord, très bien. Merci beaucoup, Louise. Beau salon à vous. Bonne continuation. Merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, on passe. Merci, c'est gentil, Louise.
Oui, c'est là.
Allez, tout de suite, c'est le zapping.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Le zapping d'RMC, le meilleur du jour, les GG, les réseaux sociaux sont-ils un lent poison? Après Facebook, Snapchat ou encore Instagram, nos jeunes sont aujourd'hui très accros, on le sait, au réseau social chinois TikTok. Ils y passent en moyenne 1h47 par jour. Une dépendance qui inquiète le gouvernement, mais également le fromager des GG, Johnny Blanc.
Moi, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on pourrait fermer tous les réseaux sociaux, quels qu'ils soient.
Ah oui, carrément, toi.
C'est un truc, mais c'est immonde, ça nous détruit la société. C'est un truc, c'est la pire catastrophe.
Ça
apporte aussi beaucoup de choses.
Non, mais il n'a pas complètement tort parce qu'on est tous addicts à ça.
Ça, c'est un bel outil. Ce que tu mets dedans, c'est juste catastrophique.
Non, mais c'est trop dur.
Fred, ça t'inquiète, toi?
Ben oui, parce que j'en suis victime.
C'est-à-dire?
Moi aussi, je suis accro aux réseaux sociaux. Moi, je suis présent, très présent sur Twitter. Très présent sur, de plus en plus sur Instagram parce que les gens sont plus gentils sur Instagram. C'est marrant, mais c'est pas du tout le même public.
Et aussi parce qu'on y dit moins de choses.
Peut-être. On met des photos, c'est vrai que mes photos sont.
Mais là, on parle des jeunes. Plaisantes. Là, on parle des jeunes.
Ben oui, mais c'est pas. Non, mais t'imagines, pour moi qui ai 53 ans, qui ne suis pas un jeune, donc qui ne suis pas né avec les réseaux sociaux, je suis déjà en partie addict, surtout à Twitter, quand je dis à Twitter et à Instagram. Donc les jeunes qui sont nés avec ça, mais bien sûr, enfin, c'est.
Non, mais.
Moi, par exemple, vous avez beaucoup de jeunes. Moi, je vois des gens de ma famille ou les enfants d'amis, etc. Tu leur envoies un message, ils ne te répondent pas. Tu essaies de les appeler, ils ne te répondent pas. Tu leur envoies un message sur Snapchat ou sur Instagram. Là, ils vont te répondre.
Ouais, c'est ça. Je vis la même chose. Moi, j'ai deux filles, 19 et 14 ans. Après, il y a une différence de génération, mais je ne comprends pas. Moi, j'envoie des SMS, des textos, et je n'ai jamais de réponse. Ou alors, deux jours après.
Ouais.
Parce qu'elles sont plus connectées là-dessus, c'est terminé. C'est plus le même canal.
En privé sur Instagram, ça marche très bien.
C'est plus le même canal. Thierry Moreau, je vois qu'il est pas content du tout.
Mais il a plein de followers lui en plus sur Twitter.
Non, je suis pas d'accord parce que d'abord, ce qu'on appelle les réseaux sociaux en France, ça s'appelle aux États-Unis social media. Ce sont des médias à part entière.
C'est pas ton intéressant. Hein.
Ce sont des médias à part entière et ce sont les nouveaux médias qu'utilise aujourd'hui une partie de la population. Alors,
je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut s'intéresser à l'accès des mineurs à ces médias pour qu'évidemment il n'y ait pas. Les Chinois, ils sont pas idiots, hein. TikTok, ils ont limité à 40 minutes par jour en dessous de 14 ans. Donc leur propre média social, ils l'ont restreint pour les.
Mais pas pour les autres. Donc, t'inquiète pas. Pour eux, voilà, mais pas pour
c'est
les
ça.
Autres.
Il faut absolument contrôler l'accès de la jeunesse à ces médias, mais on ne peut pas. Ça me fait penser. Excusez-moi, je vais faire une référence de vieux à ceux qui disaient que le rock'n'roll était un truc satanique et qu'il fallait brûler. Excusez-moi, aux États-Unis, il y a des gens qui disaient que le rock'n'roll allait pervertir la jeunesse et on brûlait des disques aux États-Unis. Donc voilà, c'est un média. Aujourd'hui, il fait partie de notre vie. L'interdire est absolument illusoire. Il faut simplement le contrôler dans son accès pour les plus jeunes et notamment l'accès à la pornographie, parce que ça, c'est un vrai problème. Mais sinon, on ne pourra pas s'en passer. Jamais, jamais.
Oui, moi, je pense que c'est effectivement c'est un instrument de débat, quand c'est maîtrisé intelligemment, de débat extraordinairement utile.
Tout à fait.
Et de liberté de parole. Après, ça ne va pas sans une éducation à la responsabilité et à la maîtrise de soi.
L'éducation média. Tu as tout à fait raison.
Et donc, mais comme la télévision, d'ailleurs, il y a des gens qui sont addicts à la télévision. On va pas dire qu'on interdit la télévision pour autant. C'est une question d'éducation.
Non, mais franchement, moi, je me vois par moment. Je regarde un film et je me prends parfois au bout d'une heure alors je regarde toujours le film à regarder Twitter en même temps.
Ouais, c'est pas bon.
Et là je me dis
ça, c'est un phénomène qui est très récent qui s'appelle la double voire la triple consommation des médias.
Je parle de l'addiction aux réseaux sociaux, ce qui fait que il y a comme un réflexe physique. Ou à un moment, t'as besoin d'aller voir Twitter ou Instagram.
Essaye de positiver et dis-toi qu'être capable de faire les deux en même temps, ça t'aide à ne pas avoir Alzheimer plus tard.
Ah bah ça va alors.
Ah bah tout va bien. Apolline Matin, le port du casque doit-il devenir obligatoire pour ceux qui utilisent des trottinettes électriques ? Face à la dangerosité de ces engins, la députée Renaissance Danielle Brulbois vient de déposer une proposition de loi qui va dans ce sens, mais les utilisateurs rencontrés à Lyon par RMC sont loin, loin d'être prêts à porter ce casque.
Le trafic augmente et donc le risque augmente. Ça a beau être bridé à 20 km/h, quand vous tombez à 20 km/h d'une trottinette sur la fesse gauche, enfin à 60 ans, ça fait mal quoi.
C'est pas obligatoire et j'y ai jamais pensé en mettre un. Ouais.
Après, il y a le côté pratique, le fait de le trimballer à droite à gauche toute la journée, c'est embêtant.
Les trottinettes, c'est quelque chose de spontané. Des fois, je suis en ville, je me dis pas, je vais prendre une trottinette et donc je vais pas prendre mon casque à chaque fois avec moi.
Thierry Moreau. On a évidemment qu'il faut mettre des casques. On est aujourd'hui sur une explosion de ce qu'on appelle les mobilités douces qui ne sont pas du tout.
Mais on rend obligatoire.
Qui ne sont pas du tout.
On oblige.
Oui, parce que vous êtes sur la voie publique. À partir du moment. Moi, j'ai pas plus tard que hier, parce que j'ai fait beaucoup de routes hier, j'étais en province, j'ai vu sur des routes, dans une ville, quelqu'un sans casque roulant assez rapidement sur une voie où c'était limité à 70. Je trouve ça, mais hyper dangereux. Et de toute façon, c'est simple. Hein. Un jour, il faudra que les piétons soient à un endroit, tout ce qui est vélo, trottinette à un autre endroit, et les véhicules à moteur
à
un autre.
On a essayé à Paris, t'as
vu le bazar. Tant qu'on fait pas ça, on n'y arrivera pas. Mais faut arrêter avec ces histoires de mobilité douce. À partir du moment où vous êtes sur la voie publique, c'est dangereux. Vous avez en face de vous des véhicules carrossés. Vous n'êtes pas carrossé. Le casque obligatoire, ce serait le minimum.
Laurent Naudrieux.
Oui, moi n'étant pas utilisateur de trottinette, je me soucie d'abord de la sécurité des gens, des piétons en fait, et du coup ça résoudra pas le problème. Mais en revanche, si vous revoyez des films des années 70, vous apercevez que tout le monde faisait de la mobilette sans casque. Ouais. Et je pense que quand on a imposé le casque, c'est pas passé tout seul. Il y a des gens qui ont gueulé. Et aujourd'hui,
et on voilà, a fait moins de morts.
La ceinture de sécurité, c'était en 76.
Et aujourd'hui, c'est admis. Et voilà. Et c'est très bien comme ça. Donc je pense qu'on y viendra de toute façon.
Fred Hermel.
Moi, je suis contre le port du casque obligatoire pour les trottinettes. Moi, je suis simplement pour l'interdiction pure et simple des trottinettes, qui sont un danger public, avant tout pour les piétons. Moi, je suis un piéton. Je ne suis que piéton. J'ai pas de voiture. J'ai pas de trottinette. Dieu m'en préserve, j'ai pas de vélo.
C'est facile, t'habites en ville.
Les trottinettes, c'est un truc de ville.
Mais c'est ça qui est terrible.
Mais tu sais quoi,
je vais te démontrer.
Parce qu'il y en a dans les villes moyennes.
Tu sais où j'habite. On est dans le.
Montre-moi la carte alors.
On est au stand des Hauts-de-France. J'habite à Cambrai. Voilà, c'est une petite ville.
C'est une ville moyenne quand même.
Oui, mais attends. Autour de Cambrai, quand je prends la route, parce que tous les matins je fais Cambrai à Arras, moi je vois aujourd'hui. Je vois sur les routes de campagne des gars en trottinette le matin dans des petits villages, des gars en trottinette. Pourquoi ? Parce que ces gens, ils font comme ils peuvent. Hausse du prix du carburant, Mais oui, mais ça joue, bien sûr. Ils n'ont pas les moyens de s'acheter un véhicule qui consomme moins, notamment un véhicule électrique. Et moi, je vois de plus en plus, je sais, parce que moi, je suis à 5h, 5h30, 6h du matin dans ces rues-là ou dans, sur ces routes. Et tu as aujourd'hui des travailleurs modestes et qui ont choisi ce moyen de transport. C'était. Non, mais. Oui.
Mais c'est très peu, hein.
Bah oui, mais par rapport quand même, t'en vois de plus en plus.
L'utilisateur classique, la trottinette, est plutôt cadre, plutôt homme, plutôt cadre, oui, et plutôt âgé.
Sauf que t'en vois de plus en plus.
Non, mais et donc, moi, je suis pour l'interdiction. C'est un danger public, ce truc. Ouais. C'est, d'ailleurs, il y a un référendum le 2 avril à Paris pour savoir si le libre service va être bien. Il y a une ville qu'on connaît bien, qui s'appelle Lille, où les trottinettes en libre service ne sont pas autorisées.
Oui, c'est vrai.
Donc, on a vécu très très longtemps sur cette terre sans trottinette. On peut continuer quelques siècles. Hein.
C'est vrai, ça c'est un argument massu. Bah, ouais. Apolline Matin, pour ou contre un chèque anti-inflation? Les prix de notre alimentation ne cessent d'augmenter et une nouvelle hausse d'environ 10% est prévue dans les prochains jours. Une inquiétude pour l'association Famille Rurale qui appelle le gouvernement et les distributeurs à proposer un panier de produits de qualité, des produits équilibrés et moins chers.
Que la grande distribution joue le jeu de mettre en place des paniers qui soient PNNS compatibles. Encore une fois, c'est pas parce qu'on manque de moyens qu'on doit accepter.
Je traduis, hein, quand vous dites PNNS compatible, ça veut dire des produits bons, des produits sains.
Des produits sains pour notre santé. C'est voilà. Une
tautologie. Que dans ce panier anti-inflation, il y a des bons produits.
Que des bons produits et ensuite qu'ils soient visibles, parce qu'en 2011, on oublie cette petite expérience qu'on avait déjà menée dans une période d'inflation. On avait mis en place, le gouvernement avait mis en place un panier des essentiels. Il a absolument pas marché, tout simplement parce que c'était un jeu de piste pour les consommateurs de trouver ces produits anti-inflation qui contenaient. Donc il y a vraiment deux nécessités. La première, c'est de se focaliser sur une cinquantaine de produits dont on sait qu'ils sont sains pour notre santé et les rendre visibles en magasin, pourquoi pas par un rayonnage dédié.
Frédéric Armel.
Oui, des produits sains, des produits visibles et des produits français. Parce que si c'est financé, et moi je suis pour,
si t'as des tomates en décembre qui viennent du Maroc.
Mais c'est ça le truc. Donc, pas de tomates en décembre déjà, et pas de cerises et ni de framboises en décembre. Mmh. Voilà. Avec des produits sains, ça veut dire qu'ils respectent aussi les saisons. Ça, c'est très bien. Mais aussi des produits français, à partir du moment où ça va être financé avec de l'argent public, autant que ça revienne dans le circuit de l'économie française.
J'ai un peu peur de l'usine à gaz. C'est-à-dire quand l'État commence à se mêler de la façon dont on doit manger. Alors encore une fois, je suis pour une alimentation saine, je suis pour le localisme, je suis pour aller chercher plutôt à manger près de chez soi et pas avoir effectivement, comme tu le dis, des framboises qui viennent du Chili à cette période-là. Là, en ce moment, il y en a sur tous les étals. Mais en revanche, donc taxons ce qui est importé et qui. Mais en revanche, je me méfie toujours des usines à gaz pour créer. Et on voit bien d'ailleurs.
Tu peux pas taxer si le ça panier. Du... Je vais pas dire de bêtises, mais si ça vient de l'Union européenne, tu peux pas taxer.
C'est vrai.
C'est espagnol, si c'est portugais, italien.
Non, mais en revanche, un point très important. Ça fait des mois et des mois que le gouvernement n'arrive pas à mettre en place son fameux panier anti-inflation qui pourrait permettre à tout le monde d'avoir des produits accessibles pour tout le monde. C'est très compliqué. L'État ne peut pas tout faire.
Oui,
après, moi, surtout, ce que je trouve, c'est que du coup, à force de multiplier ce genre de mesures de rustine conjoncturelles, j'ai l'impression qu'on ne s'occupe pas beaucoup de maîtriser les causes structurelles de l'inflation, et notamment une remise à plat de la question des tarifications énergétiques, qui est la cause principale aujourd'hui de cette inflation alimentaire et qui pourrait facilement être remise à plat et renégociée.
Allez, on passe avec un best-of, un zapping avec RMC Sport. L'OM est-il sur le déclin? Hier soir, le club de la Cité Phocéenne a été éliminé de la Coupe de France par Annecy, club de Ligue 2. Une énième défaite après celle de dimanche face au PSG qui rend fou furieux les supporters.
Oh, je suis né en 1999. La seule chose que j'ai vu soulever l'OM, c'est que j'avais 11 ans. Moi, supporter de l'Olympique de Marseille, jamais je me rappelle d'une victoire de l'OM. C'est grave. C'est grave. Pour moi, l'OM, c'est une club de losers. J'ai jamais vu l'OM gagner, mon Dieu.
Car sur les 24 dernières éditions, 10 fois l'Olympique de Marseille s'est fait sortir par un club d'une division inférieure. Et peut-être un excès de confiance, comme avec ce célèbre supporter et vidéaste Mohamed Henni, qui promettait ça avant le match.
Si l'OM se fait éliminer par Annecy, je saute à poil dans le lac de Annecy. Je saute tout nu dans le lac de Annecy et j'inviterai toute la ville à venir me voir.
Ouais, vaut mieux que je lui donne un conseil qu'il attende juillet-août.
Oui, parce que c'est un peu frais. Facile. Il faut casser la glace.
L'OM, club de losers ou pas?
Non, mais c'est justement, non. Il y a un truc dans le foot. c'est que, et surtout en Coupe de France, mais des exemples comme ça, il y en a des milliers dans l'histoire des coupes nationales. Donc ils n'ont pas respecté l'adversaire, ils se sont fait avoir, quoi, classique.
Tout de suite dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, c'est la minute conso avec Stéphane Pedrazzi. On va notamment apprendre que les Français mangent toujours autant de fruits et de légumes. Ça c'est bien, mais encore faut-il savoir d'où viennent ces fruits et légumes. C'est la minute conso, c'est dans un instant dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. À tout de suite.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Rémi Barré.
Estelle Midi, tous les jours, midi 15h sur RMC, RMC Story, le canal 23 de la TNT. Nous sommes toujours en direct du stand de la région Hauts-de-France depuis le Salon de l'Agriculture à Paris. Autour de moi, il y a toujours Fred Hermel, Laurent Dandrieux, Thierry Moreau. Et tout de suite, la Minute Conso.
RMC, Estelle Midi,
la Minute Conso.
Avec Stéphane Pedrazzi. Bonjour Stéphane.
Salut Rémi.
Bonne nouvelle pour nos agriculteurs, enfin en tout cas pour les agriculteurs, on va en parler. Les Français n'ont pratiquement pas réduit leurs achats de fruits et légumes l'an dernier, malgré les hausses de prix conséquentes dans les rayons de leurs magasins.
Oui, c'est une très bonne nouvelle, effectivement. 96% des Français continuent d'acheter des fruits et légumes frais, malgré les hausses de prix. Et 4 personnes sur 5 expliquent qu'elles n'ont pas réduit leur budget pour ce type de produit. Donc le premier constat, c'est que les fruits et légumes ont beaucoup mieux résisté que d'autres catégories de produits aux hausses de tarifs. C'est ce qui ressort du baromètre annuel de CSA. Est-ce que vous avez réduit les achats de fruits et légumes à cause de l'inflation dans les magasins ?
Non.
Non.
Si, un petit peu. C'est vrai qu'il y a des...
Moi, j'en achète plus.
T'en achètes plus,
bon. Bah oui, parce que tu vas nous le dire, mais c'est beaucoup plus cher parfois d'acheter des produits transformés. Oui. Je suis revenu à des choses plus simples. Et donc, par exemple, des pommes de terre. Non, mais c'est bête, bah, oui, des pommes de terre, des choses comme ça, j'en achète plus.
Ouais, des choses peut-être plus essentielles. En tout cas, il y a eu des changements dans les habitudes de consommation. Les hausses de prix ont entraîné d'abord un changement par rapport à l'origine des produits. 46% des personnes interrogées n'achètent plus de produits, de fruits et légumes avec le label Origine France. Parce qu'effectivement, les produits français ont plutôt une image de bonne qualité, mais ils ont aussi la réputation d'être plus chers. Et la deuxième conséquence, le deuxième changement qui a été enregistré, c'est que le prix est devenu aujourd'hui l'un des principaux critères d'achat. 39% affirment que c'est le critère déterminant. C'est pratiquement pour eux aussi important que l'aspect du produit. Le premier critère, ça reste la saisonnalité. Évidemment, on essaye d'acheter des fruits et légumes de saison. C'est plus écolo et surtout, c'est moins cher.
Et la conséquence de cette pression sur les prix, c'est qu'on achète énormément... Toujours autant de fruits et des légumes, mais énormément de fruits et légumes qui viennent de l'étranger.
Et ça, c'est pas forcément une très bonne nouvelle pour nos agriculteurs. La moitié des fruits et légumes consommés en France proviennent de l'étranger. 60% pour les fruits, 40% pour les légumes. En majorité, ils viennent des pays qui sont capables de produire moins cher, c'est-à-dire l'Espagne, qui est à côté et qui est notre principal concurrent. Et puis aussi les pays d'Afrique du Nord, notamment le Maroc, carrément, qui est un gros pays agricole, y compris sur des segments pointus, comme le bio, on en parlait il y a quelques jours. Donc c'est lié au prix, mais bon, c'est dommage. Parce qu'on est quand même un pays très agricole. Et c'est la raison pour laquelle, vous l'avez peut-être entendu, le ministre de l'Agriculture annonce 200 millions d'euros pour essayer de doper la filière agricole française. Alors vous me direz, 200 millions d'euros, c'est un petit peu faible par rapport au chiffre d'affaires du secteur agricole. L'objectif, c'est de regagner 10% de parts de marché sur les fruits et légumes d'ici 10 à 15 ans. Et puis d'inciter les jeunes à manger plus de fruits et légumes.
Parce que les jeunes, on consomme moins, eux.
Alors non, justement, c'est ça qui est intéressant. Les campagnes de santé publique, vous savez, 5 fruits et légumes par jour, mangerbouger.fr, etc., ont fini par avoir un effet sur les comportements.
Ah bon ?
C'est terminé, l'époque où les jeunes mangeaient beaucoup plus de McDo, de burgers.
Ils en mangent toujours beaucoup.
Ils en mangent toujours beaucoup, mais les enquêtes montrent qu'ils mangent des fruits et légumes. Chez les 18-30 ans, près de 9 personnes sur 10, 88% affirment avoir du plaisir à manger des fruits et légumes. C'est une enquête IFOP. En revanche, et ça c'est un peu la déception, la majorité d'entre eux expliquent qu'ils ne mangent pas 5 fruits et légumes par jour, comme c'est recommandé par les politiques de santé publique. Intéressant aussi, on s'imagine que les jeunes sont beaucoup plus contestataires, qu'il y a plus de véganes, de végétariens, 4% de véganes et 4% de végétariens chez
les... Ça va plaire à Fred Hermel.
C'est pas beaucoup, c'est trop.
On remet l'église au milieu du village.
Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent.
Petite question pour terminer, on va faire un tour de table. Est-ce que vous savez si c'est à gauche ou à droite qu'on mange le plus de fruits et légumes?
Tu veux dire politiquement parlant?
Politiquement parlant.
À droite.
À gauche.
Oui, mais pour quelle raison? C'est facile de dire
parce
à droite.
Parce que c'est l'attachement à la terre.
C'est traditionnel.
Ils ont plus de pouvoir d'achat, ils s'en foutent moins de l'écologie.
Alors, perdu, c'est à gauche. 53% des sympathisants de gauche ont un régime alimentaire essentiellement végétal. N'oublie pas que les écolos sont quand même...
Oui, mais il faut manger la balance, c'est ça.
47% pour la droite. On est
si
pas
on compte
très
le kilo, à droite, on mange français.
41% chez Renaissance, Fred.
et 33% à l'extrême droite. À l'extrême droite, il y a deux personnes sur trois qui mangent beaucoup plus de viande que de légumes. Voilà. C'est intéressant, ce,
c'est un
marqueur social. Laurent Dondrieux.
J'avais pas compté le quinoa, c'est pour ça.
Ah bah voilà, c'est pour ça.
Donc il faut faire, très attention si tu veux manger une entrecôte en public, on va te traiter de facho, quoi.
Exactement. Ah
bah oui. Ah, surtout si à Sandrine.
Tout est politique. Tu le sais, Fred Hermel, tout est politique dans la vie. Et pourtant, Fred, qu'est-ce qu'il aime le pata negra?
C'est le pata negra qui est un jambon espagnol.
Merci beaucoup, Stéphane, d'avoir été avec nous. On se retrouve demain. Non, lundi, pardon. Ouais. Et lundi, il y aura également le retour d'Estelle, évidemment, dans Estelle Midi.
Tu seras là.
Et bien sûr, je serai là. Dans Estelle Midi sur RMC et RMC Story. Dans un instant, la suite d'Estelle Midi en direct du stand de la région Hauts-de-France depuis le salon de l'agriculture à Paris. Les nouvelles formes d'agriculture. Tiens, justement, on va en parler. Stéphane, est-ce que tu serais prêt, tu as peut-être déjà fait, à manger de la viande d'autruche?
J'en ai déjà mangé, c'est bon, excellent.
Très bien, à consommer du lait de chamelle.
Non, ça, il en est hors.
Eh bien, tu sais quoi, on aura un producteur de lait de chamelle des Hauts-de-France qui va venir
pas déjà
nous rejoindre.
De
vache. Ouais, bon, on verra.
C'est mort.
On va te faire goûter, tiens.
C'est mort.
Du coup, on va te faire goûter. Vous nous appelez au 32-16, est-ce que vous seriez prêt à changer vos habitudes alimentaires? C'est tout de suite dans Estelle Midi sur RMC et RMC Story.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi, en direct du Salon de l'Agriculture.